Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce numéro, pour la 10e édition de son show, l'Union des entreprises des Alpes de Haute-Provence a engagé le débat sur le dialogue social, notre reportage dans ce magazine. Les professionnels de santé se regroupent dans des structures territoriales. L'interview du docteur Dugois qui préside l'ACPTS dans un instant. La radio, un métier que les élèves du collège de Volx ont découvert avec une équipe de Fréquence Mistral. Reportage dans un instant. Émission emblématique de notre antenne dinoise réalisée en collaboration avec Amnesty International. Pour la dignité, change d'horaire. Régis Coulange en dit plus au micro d'Odile Frison. Dialogue social, l'UDE 04 engage le débat.
L'événement est à souligner. Pour la première fois de son histoire, l'Union des entreprises des Alpes de Haute-Provence, structure patronale, a invité une représentante de salariés à son grand rendez-vous annuel. Après 2 ans d'interruption due à la crise sanitaire et dans un contexte compliqué, l'UDE a renoué avec la tradition pour son 10e grand show à Manosque. Et pour les retrouvailles, le président Didier Long et son équipe ont fait fort, d'abord en attribuant les fameuses pépites à de jeunes entrepreneurs, Marie Gélormini d'Alizé Électronique et ses bateaux électriques, très écolos, installés à Gréoux, et également aux Villeneuvois Valérie et Sylvain Pesse d'Efrem Fusion pour leurs étonnants fours à bois. L'Assemblée a également rendu hommage à Bernard Jean-Mé Peralta, un des pères fondateurs de l'UDE et qui est décédé au début de cette année. Après l'émotion, le divertissement, avec l'intervention d'un éblouissant et didactique mentaliste, Julien Labigne a mêlé messages économiques et pure magie avec brio. Mais le temps fort de la soirée fut la table ronde sur le management et le dialogue social avec 3 brillants experts. 3 approches différentes du sujet et des nuances à chaque détour. L'économiste Jean-Marc Daniel, habitué des chroniques télé et presse écrite, a eu tendance à trop parler de lui en alliant productivité, productivisme et ubérisation dans un discours matiné d'humour pour capter l'attention de tous et mettre les rieurs de son côté, son choix. Plus pragmatique, Bernard Verrier s'est placé dans le champ du dialogue social et de son utilité, voire sa nécessité. La pandémie a contraint les restaurateurs, par exemple, à tenir compte des désirs de leurs salariés sous peine de les voir quitter le navire, et le salaire n'est pas le seul élément. Horaires, congés et conditions de travail entrent dans les choix des salariés. Comment les garder? Comment en recruter d'autres pour se développer? La situation actuelle a renversé la problématique. Enfin, ancienne présidente de la CFE-CGC, syndicat de cadres salariés, Carole Couvert a donné un ton percutant face aux autres invités tout en répétant que la richesse de toute entreprise est bien l'ensemble de ses employés. Comme Bernard Verrier, elle a aussi regretté l'affaiblissement des syndicats et le manque d'intérêt des salariés, notamment les jeunes, envers ces structures pourtant essentielles au dialogue social et à l'évolution des professions. Le débat fut dense et respectueux comme un modèle de ce qui peut se développer au sein des entreprises. Depuis 10 ans, cette soirée est bien plus qu'un show, c'est un espace de réflexion et d'échange que les adhérents de l'UDE, leurs partenaires et leurs invités apprécient. Je vous propose d'écouter Didier Long sur ces sujets, mais également le préfet Marc Chapuis, récemment nommé dans le 04 et qui assistait pour la première fois au show de l'Union des entreprises. Didier Long, président de l'UDE 04, avant de parler de votre soirée, l'UDE fait son show, une vision sur la situation actuelle, l'inflation, la guerre en Ukraine, augmentation des tarifs de l'énergie.
Très tendu, on est un peu dans de l'incertitude, voire de l'inquiétude. On avance à tâtons.
Pour cette soirée, il y a une grande nouveauté, Didier Long, vous avez invité une représentante des salariés.
Oui, c'était important pour nous aujourd'hui et à ce moment-là d'avoir un représentant des salariés. On le voit, l'évolution qu'il y a dans les entreprises, les problématiques que l'on rencontre avec le dialogue social qui devient très compliqué, la grande démission comme on peut entendre parler, il y a besoin de se remettre en question et de comprendre un peu ce qui se passe. Donc les choses, elles vont très 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 vite. C'est un peu ce qui nous dérange aussi et qui nous met un peu dans l'inquiétude parce qu'on a l'habitude d'être en mouvement et de bouger et d'avancer. Mais là, c'est la façon dont les choses se passent. Donc il est important aujourd'hui d'avoir la vision d'un syndicat pour un peu avoir sa façon de voir les choses et nous aider à avancer et à construire l'avenir. N'oublions pas une chose, c'est que les salariés sont très importants dans l'entreprise puisqu'ils représentent la productivité et la force de l'entreprise.
C'est un acte fort que vous faites, l'union patronale qui, sur scène, invite les salariés à discuter du dialogue social, justement.
Oui, je pense qu'il faut à un moment sortir des clivages et avancer d'une manière positive. Je trouve ça quelque chose de très positif, en tout cas.
On va parler contrat de travail, évidemment, CDI, CDD, des missions, etc. Beaucoup de choses. Votre sentiment sur la date butoir de la retraite qui risque d'être repoussée et en même temps, comment aider les employeurs à embaucher des seniors 50 et 60 ans par exemple ?
Pour moi, c'est inévitable. Aujourd'hui, on est obligé de repousser le départ à la retraite. Il y a certains postes, effectivement, sur lesquels il va falloir réfléchir et les faire partir à l'âge à 60 ans, voire même avant. Les postes difficiles, il y en a, il faut le reconnaître. Après, pour reprendre au début, en fait, notre système social, il est construit par les gens qui travaillent. Et aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus vieux, donc tant mieux. Il faut se réjouir de ça. Mais donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de ressources pour alimenter tout ça et alimenter ces retraites. Et c'est le travail qui va devoir pallier à tout ça. Et les 2 années de plus qui seront à faire, je pense qu'elles sont inévitables.
Les intervenants ce soir vont parler de désindustrialisation, vont parler d'inflation, de dette publique. Ce sont des sujets qui vous concernent directement.
Alors peut-être pas de désindustrialisation, au contraire c'est un sujet, ça je veux dire il est là, c'est quelque chose qui marche bien. La difficulté c'est aujourd'hui de fidéliser nos salariés, d'éviter ces démissions et d'avoir des relations sociales saines, pouvoir échanger avec nos salariés, évoluer avec eux.
Une date à marquer d'une pierre blanche.
Ben oui. Oui, oui, comme toutes les autres, et il y en aura d'autres. Et le show de l'UDE a toujours été marqué par des phénomènes de société du moment qui pouvaient arriver à trouver les solutions sur les problématiques que l'entrepreneur pouvait rencontrer sur le moment. Donc et là, c'est vraiment les sujets qui sont sur le tapis, donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions.
Marc Chapuis, vous êtes préfet des Alpes de Haute-Provence. C'est la première fois que vous assistez à l'UDE fait son show. Votre sentiment ?
Alors mon sentiment, c'est que c'est une bien belle manifestation, impressionnante par son ambition de rassembler un maximum de chefs d'entreprise. Je pense que le pari était très réussi ce soir. C'est une belle manifestation qui est une belle démonstration aussi de ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui est certes touristique, certes rural, est aussi un département d'entrepreneurs qui sont innovants, qui sont animés par un fort attachement à leur département. C'est une belle démonstration du dynamisme et de l'innovation qu'il y a dans ce département.
Avec 2 entreprises qui ont reçu les pépites de la part de l'UDE, également un mentaliste qui a fait un tabac ici même, et également des conférenciers qui ont introduit la question du dialogue social au sein des entreprises, c'est important.
C'est absolument essentiel. Je pense que ce soir, il était important de montrer que, comme le reste de la société, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise font face à des mutations, à des transitions importantes qui sont liées à l'évolution des mentalités, à l'évolution du rapport au travail, à l'évolution aussi des conditions économiques qui ont été quand même fortement chahutées, perturbées depuis plusieurs années. Ce que je retire de cette rencontre, c'est finalement que, à la fois, il y a une forte détermination à affronter ces nouvelles conditions du marché pour les chefs d'entreprise, à toujours innover, mais à le faire dans un état d'esprit collectif. Collectif entre le chef d'entreprise et ses salariés. Il a été beaucoup question de management, il a été beaucoup question de donner du sens au travail des agents, mais aussi collectif au sens où l'ensemble des partenaires des entreprises travaillent main dans la main pour accompagner ces changements, ces mutations. Et l'État fait partie de ces partenaires, il a énormément accompagné les entreprises entreprises au moment de la crise du Covid, au moment du plan de relance. Je crois qu'on peut dire que sans le soutien massif de l'État au travers des différents dispositifs, on serait dans une situation économique aujourd'hui beaucoup plus critique qu'elle ne l'est. Mais au-delà de cet investissement public majeur, il y a la région, il y a des organismes consulaires, il y a l'agence de développement. Et finalement, dans un département à taille humaine comme les Alpes-de-Haute-Provence, les décisions peuvent se prendre rapidement, les échanges peuvent être assez fluides et c'est une chance parce que c'est finalement aussi une chance de succès pour les entrepreneurs qui sont accompagnés au jour le jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes dans leur témoignage et j'ai trouvé que c'était vraiment un élément fort qui caractérise ce département.
Les professionnels de santé réunis dans une structure locale.
Outre les milliers de décès et les dramatiques conséquences économiques et sociales, la crise sanitaire de ces deux dernières années a montré des dynamiques locales très positives. La mobilisation des soignants a été exemplaire. En même temps, étaient créées les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, regroupant les professionnels de santé dans un cadre juridique et financier, avec l'aide de l'ARS PACA et de la CPAM 04, est née une structure de ce type à Manosque et concerne un territoire de 47 communes. En signant une convention sur 5 ans avec ses partenaires, Thierry Dugois, qui préside la CPTS Sud 04, rappelait la mobilisation des services de soins pendant la pandémie. Le maire de Manosque, Camille Galtier, l'a souligné, le centre de vaccination a accueilli le public en continu et dispenser 50 000 injections dans les lieux mêmes où se déroulait la signature de la CPTS. Une coïncidence et un symbole. Également présent à l'événement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chapuis, a salué l'initiative qui favorise la collaboration de tous dans l'intérêt général et verrait bien cette démarche interprofessionnelle transposée à d'autres secteurs comme l'école ou encore la transition écologique. Après la signature avec Bertrand Bijou-Duval, directeur départemental de l'ARS, et Anne Bernier, qui dirige la CPAM 04, Thierry Dugois a répondu à mes questions. Thierry Dugois, vous présidez cette nouvelle structure sur Manosque, la communauté professionnelle territoriale de santé. En quoi ça consiste ?
Une CPTS, donc communauté pluridisciplinaire, donc territoire de santé, c'est la réunion en fait entre les différents acteurs donc, de santé qui vont du médecin en passant par le pharmacien, en passant par l'infirmier, le psychologue, les assistantes sociales, les kinés et j'en passe. Et donc tous ces gens se fédèrent pour pouvoir apporter une réponse la mieux adaptée possible aux patients et trouver les systèmes les plus économiques et les mieux adaptés en fait, aux actions de prévention et je dirais, à la fluidité des soins en partenariat avec les hôpitaux, et les cliniques et les services de soins.
Je précise que vous êtes médecin, c'est une disposition nouvelle.
Alors c'est une disposition qui se met de plus en plus en place. On l'a bien vu déjà au niveau de l'hôpital quand ils ont donc développé de plus en plus donc les services de soins ambulatoires où un truc tout bête, c'est qu'avant, quand vous aviez une appendicite, on vous opérait et vous restiez une centaine de jours à peu près, une semaine à l'hôpital. Maintenant, on vous opère et deux jours après, vous êtes dehors. Une hernie inguinale, donc une hernie, c'était une semaine aussi à l'hôpital. Maintenant, on le fait en ambulatoire. Donc tous ces gens qui sortent ont besoin quand même de professionnels de santé pour pouvoir assurer le suivi et le non-risque. Et les CPTS donc, ont aussi pour vocation, et mission surtout, de pouvoir justement donc, assurer la continuité des soins entre l'hôpital, les cliniques et la ville.
À vos côtés pour signer cette convention, l'ARS bien sûr, et puis également l'assurance maladie.
Absolument, parce que ce sont des partenaires de façon évidemment obligatoire, dans le sens où l'assurance maladie sont, je dirais, les trésoriers en fait des CPTS, et il est tout à fait logique qu'on signe un partenariat, sachant que les sommes allouées par l'assurance maladie ne sont pas des sommes sur un budget global, une enveloppe donnée, les yeux fermés. Ce sont des missions donc proposées par les CPTS, des missions qui sont aussi proposées par les CPM et les ARS, validées par les CPTS, et ensuite quand les CPTS arrivent à mettre ces missions en place et arrive aux objectifs discutés par amont, à ce moment-là, effectivement, donc, les sommes discutées sont allouées et permettent l'aboutissement des missions donc réalisées.
Vous avez déjà des projets, des actions en vue ?
La CPTS est obligée, pour pouvoir être créée, de présenter au départ tout un panel de missions avec des grandes missions nationales qui sont donc l'accès aux soins pour tout le monde, lutter contre la désertification médicale et paramédicale, la coordination des soins entre villes et les secteurs hospitaliers. Toutes ces missions, les missions de dépistage où on va appuyer en fait les missions de dépistage donc des cancers qui sont déjà mises en place par les CPM. Donc là, les CPS localement vont essayer justement de booster toutes ces campagnes nationales. Il y a énormément de missions qui sont réalisables et le but de ces CPTS, c'est justement de pouvoir en fait apporter une réponse à tout le monde, une fluidité dans les soins, à fédérer pour que ce soit beaucoup plus facile et que les gens ne restent pas dans leur coin en se disant « comment je vais faire pour ça ?» Donc apporter un organigramme, apporter des solutions avant qu'il y ait des problèmes.
Avec les deux dernières années qui se sont déroulées et la crise sanitaire, on a là peut-être une solution qu'on n'avait pas vue dans les années précédentes et où tout le monde se retrousse les manches.
Oui, je pense que la crise sanitaire a été effectivement une prise en conscience de beaucoup de situations. À Manosque, on avait mis en place, à Manosque et sur les communes avoisinantes, au Pierre-Vert, Villeneuve, Vol, tout ça, on avait mis en place déjà à l'époque, hors CPTS, on avait déjà commencé à créer justement des relations entre des équipes infirmiers, des équipes médecins, donc pour pouvoir assurer au maximum des patients Covid positifs lors de la première zone, où on avait quand même une dangerosité du Covid qui était beaucoup plus importante que maintenant. Et donc on avait déjà mis en place à l'époque ce genre de soins et on s'est rendu compte que ça marchait très bien du moment qu'il y avait de la bonne volonté, ce qui était le cas, que ça marchait très bien et qu'en fait c'était vraiment pour les gens un confort fantastique. On a évité de saturer les hôpitaux, on a traité au maximum à domicile sans prendre de risques pour les patients surtout, ni pour les professionnels de santé qui retroussaient les manches et qui le faisaient. Et on s'est dit après ça que franchement c'était des belles missions et que les CPTS correspondent en fait à ce genre de mission et c'est là que naît l'idée justement de pouvoir se dire ben, pourquoi pas quoi. On avait mis en place déjà quelques bases et bien continuons.
Quand des collégiens de Volx s'initient à la radio.
Dernièrement, au collège André Ayot de Volx se déroulait la préparation des collégiales, réunion départementale festive. Pour les élèves de la classe média de 5e, il s'agissait de découvrir un métier radiophonique et de construire une interview pour partir ensuite sur le terrain à Digne-les-Bains à l'occasion de la journée du sport. Le but, réaliser plusieurs reportages sur des activités sportives dans divers domaines. Cette action est menée et coordonnée par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Fréquence Mistral a été chargée de cette formation au collège de Volx. Pour se préparer à cette rencontre, les jeunes élèves ont dû improviser des jeux de rôle pour se former au journalisme. Au micro de nos collègues Chris, Mathieu et Dorian, rencontre au cœur des ateliers de formation aux médias avec les élèves et leurs professeurs, Evelyne Polky et Margot Eschbar.
Bonjour à tous, on vous présente les collégiades où il y a plusieurs collèges qui vont faire des sports différents.
Donc quel métier pratiquez-vous ?
Alors je suis professeur documentaliste.
Du coup pourquoi aimez-vous ce métier ?
Alors c'est un métier très hétérogène, il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'aime ce métier parce que par exemple on fait de l'enseignement, on travaille aussi au niveau de la gestion du CDI et aussi on fait beaucoup d'actions culturelles. Donc c'est très varié et j'aime beaucoup ce métier parce que justement il y a plusieurs missions et ça me permet de ne pas faire la même chose tous les jours.
Depuis quand pratiquez-vous du coup ce métier ?
Alors ça fait longtemps, ça fait 20 ans que je suis professeur documentaliste, donc ça fait très longtemps.
D'accord, merci d'avoir participé.
3, 2, 1, go ! Bonjour, quel métier pratiquez-vous ?
Je suis professeur d'histoire-géographie EMC depuis 10 ans.
Ah, quelle information !
Pourquoi aimez-vous ce métier ?
Parce que j'aime créer les cours, j'adore préparer des activités intéressantes et amusantes, j'aime bien le travail de groupe et j'adore travailler avec les enfants.
Ok, merci.
On vous a présenté tous les métiers de la classe média de Volx avec Madame Polki, Madame Eschbach. Et on espère que ça vous aura plu. Ils ont apprécié d'être interviewés par notre jeune classe de reporters.
On a pu vous présenter quelques métiers différents.
Nous allons interroger Berengue Margot. La première question, comment vous vous appelez ?
Bonjour, je m'appelle Margot.
Quel sport pratiquez-vous ?
Je pratique du paddle.
Pourquoi avez-vous choisi ce sport ?
Parce que j'aime bien ce sport et que j'en fais avec ma tante.
Quelle est votre expérience en ce sport ?
Depuis petite.
D'accord. Comment avez-vous découvert ce sport ?
Je l'ai découvert quand j'allais chez ma tante à Barcelonnette.
Pourquoi aimez-vous ce sport ?
Parce que c'est sur l'eau et que comme il fait chaud, c'est un sport d'été. Et comme j'aime un peu l'été, c'est bien. Et ça aide à tenir son équilibre.
D'accord, merci. J'ai pas fini. Où faites-vous ce sport ?
Du coup, j'ai déjà répondu et je le fais à Barcelonnette sur un lac.
Comment s'appelle le lac ?
Je ne me rappelle plus de son nom.
D'accord, merci. On vous laisse tranquille pour la journée.
Merci, au revoir.
Bonjour à tous. Donc là, du coup, on est digne, on est sur le truc au sport des collégiens. Du coup, là, je vais interroger Manon Boucher. Comment vous vous appelez ?
Manon Boucher.
Quel sport pratiquez-vous ?
Je pratique du paddle.
Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer ce sport ?
Parce que c'est bien, c'est sur l'eau et que j'adore l'eau et qu'on peut en faire en été et que j'adore l'été.
Qu'aimez-vous sur ce sport ?
Je viens de le dire, mais bon, c'est pas grave.
Merci beaucoup, Madame Boucher. Du coup, c'est fini, on va interroger quelqu'un d'autre.
Nathan Revest, qu'est-ce que le fun run ?
Le fun run est un jeu amusant dont les courses sont en équipe, dont il y a plein d'obstacles comme de la boue, du jet de peinture, etc.
Combien de personnes ça se joue ?
Alors, si tu as plusieurs équipes, tu peux y jouer avec 10 personnes, 5 personnes. Mais après, tu peux y jouer avec beaucoup plus, comme le football ou des jeux comme ça. C'est juste, faut avoir plusieurs équipes.
Bonjour, nous sommes ici au Collégiade et nous allons interviewer Noah, un organisateur de cet événement. Quelle est votre fonction dans cet événement ?
Je suis le dirigeant de cette activité.
Comment cela s'est organisé ?
Alors, ça s'est organisé en plusieurs parties. Il y avait un groupe qui travaillait sur le laser run, un groupe sur le ergo aviron, un groupe sur le kayak et un groupe sur le fun run. En gros, chaque activité, il y avait des groupes de 6 disposés à chaque endroit.
Qu'est-ce que vous pensez d'une rencontre comme celle-ci, d'un après-midi comme aujourd'hui ici à Volx ?
Du coup, j'aime bien parce qu'au moins on peut poser des questions à des personnes et à vous du coup pour en savoir plus et interroger aussi des autres personnes pour s'entraîner.
Alors moi j'ai adoré parce qu'il y a eu des journalistes comme vous par exemple qui travaillent dans les audios. Ça fait plaisir de poser des questions, d'être curieux et d'avoir plus de métiers au collège André Ayot de Volx.
Moi, depuis petite, je me pose la question comment on fait et maintenant j'ai appris grâce à vous.
Tu as aimé ?
J'ai adoré, c'était excellent.
Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai toujours aimé écouter la radio et le journal parce que je trouvais que c'était très enrichissant. Apprendre comment ça marche, je suis très contente. Alors merci.
Merci beaucoup.
Evelyne Polki et Margot Eschbach, pourquoi cette journée ? Pourquoi cette rencontre ici à Volx dans le collège André Ayot ?
Pour faire connaître à nos élèves de l'option classe média différents types de médias, dont le média radio notamment.
Qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui le connaissez bien, ces élèves qui sont ici, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux, de leur comportement et leur réaction vis-à-vis donc du média en général ?
Alors là, je viens d'avoir justement la réaction d'une des élèves qui me disait « Madame Polki, mais c'est super, je suis super contente d'avoir pris l'option classe média. » Donc pour nous, ça, c'est une récompense.
Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont l'air très curieux de pratiquer les médias, de rencontrer les journalistes. Alors même que je les sens pas hyper ouverts à l'actualité en général. Je pense que pour eux, c'est une belle ouverture et c'est une bonne chose.
Justement, de quelle façon, par quelle subtilité vous les amenez à avoir autant de réactivité sur une rencontre comme celle-ci, alors que le métier ne le connaissent pas et il faut avant les canaliser, les former, peut-être les informer aussi ?
Les former, c'est une chose, mais je crois qu'il faut tout le temps les mettre en activité, en atelier. Il faut tout le temps qu'ils soient acteurs de leurs travaux. Et si on fait que des séances de cours magistraux, ça sert à rien. Il faut tout le temps qu'ils pratiquent. Donc il faut tout le temps les mettre devant un micro, devant une caméra, devant un ordinateur, voilà, qu'ils soient tout le temps acteurs de leur travail.
À la fin de cette rencontre, votre impression, qu'est-ce que vous en pensez? Vous les avez vus travailler, vous les avez vus évoluer avec beaucoup d'aisance?
Eh bien, notre objectif est atteint, il me semble. Ils sont arrivés à poser des questions et à interviewer, donc j'espère que le jour J, ce sera bon pour eux.
Oui, et puis on espère pouvoir venir voir la radio en studio pour compléter cette venue des journalistes.
Digne, un nouveau créneau pour les droits humains.
Pour la dignité est une émission sur les droits humains qui existe depuis de nombreuses années sur notre antenne dignoise. Préparée et animée par Régis Coulanges d'Amnesty International, ce rendez-vous mensuel change d'horaire. C'est désormais le premier lundi de chaque mois de 9h à 10h et bien sûr elle est en podcast sur notre site internet. Notez aussi que la foire aux livres d'Amnesty a lieu sur 2 jours à la salle de l'Atrium les 14 et 15 octobre, une façon d'aider Amnesty International dans ses actions de défense des droits de l'homme et de se faire plaisir en achetant des livres à prix très bas. Régis Coulanges répond aux questions d'Odile Frison.
Régis Coulanges d'Amnesty International, vous reprenez cette nouvelle saison sur Fréquence Mistral avec cette émission sur les droits humains pour la dignité, ce qui est désormais donc les premiers lundis du mois de 9h à 10h sur Fréquence Mistral Digne.
Voilà, nous reprenons. Ça fait plusieurs années que nous organisons cette émission pour parler des droits humains, pour parler bien sûr de l'engagement des actions d'Amnesty International au niveau mondial et au niveau français. Mais pas que, puisqu'on a aussi des fois des invités du bassin dinois qui aussi s'occupent de droits humains et de dignité. Nous sommes donc heureux de faire cette émission pour faire connaître nos engagements et puis pour inciter aussi les auditeurs à nous rejoindre, à aller sur le site amnesty.fr pour signer des pétitions et puis pourquoi pas rejoindre notre groupe, hein, notre groupe dinois. On se réunit une fois par mois, le dernier mardi de chaque mois, à partir de 17h, chez Marie-Dominique Blanc, là, qui habite à côté de l'étal Les Trois Vallées. C'est la villa qui est derrière le grillage. Si jamais vous vouliez participer à une de nos réunions pour voir un peu comment ça se passe, c'est volontiers. Vous pouvez m'appeler Régis Coulanges au 06 81 34 18 83. 06 81 34 18 83. Alors nos activités sont variées. Là, on est très occupé en ce moment par la préparation de notre foire aux livres qui aura lieu le 14 et 15 octobre à l'Atrium. Donc le vendredi 14 octobre, on ouvrira de 9h à 18h et le samedi 15 octobre de 9h à 13h. Hein, on finit à 13h. Voilà, donc vous pouvez venir si vous aimez la lecture, vous aurez des milliers de livres à disposition. Nous les vendons à prix modique, c'est pour financer Amnesty International, qui est une organisation mondiale de défense des droits de l'homme, qui n'a aucune subvention, pour la bonne raison qu'elle n'en demande aucune, pour rester indépendante de tous les pouvoirs. Voilà, et puis bien sûr, les activités du groupe sont nombreuses. Nous écrivons régulièrement des courriers pour faire libérer les personnes, arrêter et faire cesser des tortures, lutter contre les injustices. Et puis, nous avons donc un nouveau prisonnier d'opinion dont nous allons nous occuper, un artiste cubain qui s'appelle Alcantara. Et puis, nous faisons aussi énormément d'éducation aux droits humains dans les collèges, les lycées, les écoles primaires aussi. Donc on intervient pour parler des droits de l'enfant, des droits humains, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis du fait que les jeunes peuvent, très jeunes, s'engager aussi avec nous, parce que plus on est nombreux, plus on a de victoires. Voilà.
Et puis pour ça, vous avez créé plusieurs antennes jeunes, enfin il y en a une en tout cas, au lycée Pierre-Gilles de Gênes.
Voilà, alors au lycée Pierre-Gilles de Gênes, depuis plusieurs années, il y a une antenne jeune qui fonctionne très bien. On est très bien reçu par le proviseur, c'est à souligner, et on les aide quand il y a besoin. Par exemple, en décembre, il y a les 10 jours pour signer. Bon, c'est une opération mondiale de signature de pétition, d'envoi de courrier, de cartes. Et donc on va les aider une journée, mais ils font aussi par eux-mêmes des actions, dessiner des bas, voilà, ils sont... ils sont tout un groupe là et ça fonctionne très bien. Voilà, on intervient aussi dans les autres établissements, c'est pas toujours facile de faire une antenne jeune. Au Sacré-Cœur, il y a toujours 4 ou 5 jeunes qui, chaque année, choisissent Amnesty et nous donnent quelques heures de leur temps pour nous aider dans nos actions, quand on organise des ciné-débats ou pour la Foire aux Livres ou autre. Et ils peuvent aussi participer à nos réunions. Et on les informe aussi du fonctionnement de notre mouvement.
Ces interventions dans les écoles, vous parlez des écoles primaires, ça c'est nouveau?
Non, on a toujours intervenu dans les écoles primaires. Là, on est.
Est-ce que c'est, pardon, à la demande du directeur?
Alors là, c'est à la demande. En fait, vous savez qu'il va y avoir la Coupe du Monde de rugby amateur en 2023. Et dans ce cadre-là, on a été interpellé pour parler des droits humains. Vous savez que on en parle beaucoup des droits humains liés au sport. Hein. Je vous ai parlé du Qatar dans ma dernière émission. Donc, on a été interpellé par les organisateurs du rugby pour participer, intervenir dans les classes. Parce qu'il y a des classes qui vont participer à cette opération liée à la Coupe du Monde de rugby. Il y aura la Coupe du Monde de rugby amateur sur Digne. Et il y a des classes qui sont en lien avec des classes d'autres pays qui participent aussi, qui vont participer à cette Coupe du Monde de rugby amateur. Et donc c'est une ouverture vers le monde. Et ils ont pensé que inviter Amnesty à intervenir dans les écoles, c'est aussi leur ouvrir le monde. Et donc, l'année dernière, on est intervenu dans plusieurs classes primaires pour parler des droits de l'enfant. Et cette année, nous interviendrons à nouveau dans des classes primaires pour parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, parce que c'est à connaître chaque citoyen. C'est important qu'il connaisse ses droits, les droits de chaque homme.
Quelle est la réaction des enfants? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils posent des questions, les très jeunes?
Oui, c'est toujours très agréable parce qu'ils sont intéressés hein, par ce qu'on leur raconte, ils participent, ils posent des questions très souvent pertinentes. Et vraiment, c'est un plaisir et on est content de leur apporter cela.
Nous clôturons ce magazine, François, avec une information importante concernant Sébastien Raoult.
Je rappelle que ce jeune Français est actuellement incarcéré au Maroc sous la menace d'une extradition vers les États-Unis où il risque une peine de 116 ans de prison. Originaire des Vosges, Sébastien Raoult est accusé de piratage informatique alors qu'il n'a jamais mis les pieds aux USA. Député des Alpes-de-Haute-Provence où réside Isabelle Coffé, la tante de Sébastien, Léo Walter a rédigé une lettre avec le député des Vosges, Stéphane Viry, à l'intention du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Cette lettre est signée de 34 députés issus de 7 différentes sensibilités politiques. En voici quelques extraits. « Nous sommes plusieurs parlementaires, écrivent-ils, à avoir été interpellés sur cette situation par des proches, familles ou amis de Sébastien Raoult. Nous savons que le ministère de la Justice et la présidence de la République ont également été interpellés à ce propos. Les faits reprochés à Sébastien Raoult, citoyen français, se sont déroulés sur le territoire français. Il doit donc être jugé par un tribunal français et selon le droit français. Le 3 août à Marseille, vous avez déclaré que vous n'aviez pas la possibilité à ce stade d'intervenir, la justice marocaine étant, je cite, « souveraine et indépendante ». Depuis, des éléments repris entre autres par Le Monde, Libération et La Dépêche montrent que les investigations sur cette affaire ont été menées sur le sol français et par des policiers français. Vous avez donc bien les moyens d'intervenir. Monsieur le ministre, poursuivent les députés, Sébastien Raoult ne cherche pas à se soustraire à la justice. Il souhaite qu'une demande d'extradition soit formulée par les autorités françaises auprès des autorités marocaines, conformément à la convention d'extradition franco-marocaine du 18 avril 2008. Il souhaite être jugé en France dans le respect de ses droits fondamentaux. Nous, parlementaires de toute sensibilité, délégataires de la souveraineté nationale, nous associons à cette demande, nous réaffirmons également notre attachement à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui considère la condamnation perpétuelle sans perspective de libération comme un traitement inhumain et dégradant. Nous demandons enfin que la souveraineté juridictionnelle française ne soit pas bafouée. Monsieur le ministre, vous avez le pouvoir de redonner espoir et foi en la justice à un jeune citoyen français et à sa famille. Nous vous demandons de le faire, conclut Léo Walter, député des Alpes de Haute-Provence, et Stéphane Viry, député des Vosges, suivi, bien sûr, de 34 noms des signataires qui ont adressé cette lettre à Éric Dupond-Moretti. Nous suivons évidemment ce dossier avec beaucoup d'attention. C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup Louis pour la régie et à la semaine prochaine.
Merci François.